Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Le paddock RMC, c'est ton podcast Formule 1 qui débrief tous les week-ends de course. C'est le lundi et c'est à écouter ou télécharger sur toutes les plateformes. Et rmcsport.fr, troisième manche de la saison, hier en Australie, sur le mythique circuit de l'Albert Park à Melbourne, avec un triomphe pour Ferrari, doublé pour la Scuderia. Verstappen a lui dû abandonner. La Scuderia Ferrari peut-elle vraiment y croire pour aller décrocher un titre qu'il a fui depuis de nombreuses années, un titre d'ailleurs pilote ou constructeur. On va revenir également sur le premier échec de Red Bull cette saison, et puis c'est la crise chez Mercedes. Rien ne va plus, il est colère, notre Toto Wolff. Pour en débattre, les ingénieurs du paddock RMC sont là, Jean-Luc Roy, Alex Caldi et Paul Lafitte. Salut les gars.
Bonjour.
Salut Nico, bonjour à tous.
Salut Nico. Salut.
Bonjour Luc et Paul, sont des voix mythiques de RMC. Si vous voulez retrouver Alex, ça se passe sur tes réseaux sociaux, hein, c'est ça, sur YouTube, Alex?
Toujours, toujours, bien sûr.
Donc allez suivre Alex Caldi. Continuez à nous noter, hein, à nous envoyer vos commentaires sur les réseaux, à débattre avec nous. C'est un nouveau podcast, donc on a besoin de vos avis et de vos notes. Si on peut viser les 5 étoiles, on prend, on vous le cache pas. Les gars, on lance le troisième paddock RMC de la saison.
Lights out and away we go, and we do get a start. Carlos Sainz with DRS, he's almost wheel to wheel. Carlos Sainz takes the lead.
Fire. Just lost the car.
Max Verstappen, championship leader, going very, very slowly, and he could well be out of the race.
Engine failure.
Hamilton out of the race.
Okay, Lando, I know you are, but we want to try and get up behind the clutch.
Here, a big crash! George Russell with a massive accident at the end of the Grand Prix.
Red flag, I'm in the middle of a track.
What a performance! What a comeback! A Ferrari 1-2, headed by Carlos Sainz, who wins the Australian Grand Prix.
Ah, c'est team italien. Il nous avait manqué quand même, les gars, non? Depuis le temps qu'on attendait cet hymne, avec une victoire de Ferrari, superbe prod, hein, récap de la course réalisé par Romain Leroutier. Le classement de la course, les gars, avant de se plonger dans nos débats, quand même, troisième victoire en carrière pour Carlos Sainz au volant de sa Ferrari, qui a fait un week-end parfait, on va y revenir. Deuxième place pour Charles Leclerc, c'est le premier doublé depuis plus de 2 ans pour Ferrari. Le dernier, c'était à Bahreïn en 2022, et Charles Leclerc qui signe en plus le meilleur tour en course. Troisième place, Lando Norris qui complète le podium, c'est le 14e de sa carrière et c'est le premier pilote qui n'est pas Red Bull ou Ferrari à monter sur la boîte cette saison, devant son coéquipier Oscar Piastri, 4e, Sergio Perez, 5e, mais à 56 secondes de Carlos Sainz. L'écart est colossal entre le pilote Red Bull et Sainz. 6e, Lance Stroll. 7e, Yuki Tsunoda. 8e, Fernando Alonso. Alors, il a franchi la ligne en 6e position, mais il a été pénalisé de 20 secondes, Fernando, pour son freinage devant Russell qui a causé son abandon et le crash du pilote Mercedes. Donc, il perd des places. 9e, Hülkenberg. 10e, Magnussen au volant de leur as. Pierre Gasly termine 13e, Esteban Ocon 16e, et puis les principaux abandons, bien évidemment, Max Verstappen qui abandonne, problème de frein au 4e tour. Il met fin à ses 9 victoires consécutives avec cet abandon, et puis catastrophe pour les deux Mercedes, hein, Hamilton et George Russell qui sont out. Au classement des pilotes, Verstappen 51 points, qui n'a plus que 4 points d'avance sur Charles Leclerc. Sergio Perez est 3e, 46 points, à 5 points de son coéquipier. Carlos Sainz revient à 11 points de Max Verstappen. Donc ça se resserre derrière les deux pilotes McLaren, Piastri et Norris. Et au classement des constructeurs, 97 points pour Red Bull, 93 points pour Ferrari. Donc c'est vraiment en train de se resserrer après cette troisième manche de la saison. Et c'est une bonne chose. Voilà, vous avez toutes les données chiffrées après ce Grand Prix d'Australie à Melbourne. Jean-Luc, ce qui fait plaisir, c'est que déjà ça bouge en Formule 1. On n'a pas encore un podcast où on va parler de l'écrasante domination de Max Verstappen. Et puis les Ferrari ont su profiter de l'opportunité. Je sais pas toi, Jean-Luc, mais ça fait quand même du bien aussi de voir Ferrari retrouver un petit peu ce statut-là, les deux premières places, un podium, entendre cet hymne italien. Ça fait du bien un peu à tout le monde.
Eh bien, écoute, je crois que c'est clair. Et effectivement, c'est vrai que ça finit par lasser la domination des meilleurs ou du meilleur en l'occurrence. Et là, ça apporte un peu de sang-frais. Alors, de cette manière-là, ce n'est pas toujours la manière la plus élégante et la plus convaincante, je dirais, parce que suite à un problème technique, évidemment, on peut se dire qu'est-ce qu'aurait fait Verstappen, et on va évidemment en débattre et supputer sur la question. Mais on savait que les Ferrari étaient beaucoup plus proches. On avait compris quand même depuis les deux premiers Grands Prix qu'elles avaient au moins divisé par deux l'écart qui les séparait de la Red Bull, on va dire, en l'occurrence celle de Verstappen, parce qu'on va parler de celle de Perez. Donc maintenant c'est fait, ça veut dire que bah, il peut parfois y avoir effectivement un petit ou un gros problème mécanique, et dans ce cas-là, bah, Perez, qui de surcroît lui avait été frappé de ces fameuses trois places de pénalité sur la grille, pas de sa faute d'ailleurs, plutôt de la faute de l'écurie, n'a pas eu les moyens de remonter ou n'a pas pu remonter pour diverses raisons. Donc oui, ça fait beaucoup de bien, et puis comme tu viens de le dire en évoquant les classements au championnat, ça redistribue pratiquement totalement les cartes. On repart presque à zéro avant le Grand Prix du Japon à Suzuka. Bah évidemment, on pouvait pas rêver mieux, j'allais dire, en l'absolu, hein, pour maintenir le suspense.
Et ça, c'est bon. Alex, la perf de Sainz ce week-end, elle est extraordinaire. On rappelle qu'il y a 15 jours, quand même, il était sur un lit d'hôpital, opéré de l'appendicite. Et la troisième victoire de sa carrière, en plus, c'est un week-end totalement maîtrisé de A à Z. C'est ça qui est fort.
C'est ça qui est fort, et c'est vrai que c'est le terme, mais la maîtrise. La maîtrise de Sainz aujourd'hui du côté de l'Australie, dans le sens où je ne m'attendais pas à une aussi grosse performance sur la durée. En séance d'essai, bien sûr, il y a l'aspect où on peut se reposer, rentrer au pit, reprendre de ses forces. Mais comme tu en parles de l'appendicite, oui, il y a moins de 15 jours, le gars était sur une table d'opération.
Ouais, il rate l'Arabie Saoudite.
Exactement. Et il revient, et que 16 jours après, qu'est-ce qu'il y a ? Il arrive à remporter le Grand Prix, ce Grand Prix d'Australie. Et le fait de tenir sur la durée montre réellement que la performance est toujours au rendez-vous pour Carlos Sainz, qui est assez paradoxal par rapport à parfois le niveau de l'année dernière, qui peut être quelque peu compliqué par rapport à Charles Leclerc. Et il y a comme une sorte de libération par rapport à Carlos Sainz, déjà d'une par rapport au fait où cette saison, c'est sa dernière saison avec la Skoda Ferrari. Il sait qu'il ne sera plus du côté de chez Ferrari. Est-ce qu'il y a peut-être un retour d'orgueil, même, j'ai envie de dire, de Carlos Sainz, de faire comprendre à Ferrari qu'ils ont peut-être fait le mauvais choix en le laissant partir? Et c'est vrai
tu sens qu'il y a ça, tu sens que c'est plus l'orgueil du champion qui a été piqué plutôt que la libération de se dire de toute manière j'ai rien à perdre, voilà, il y a plus d'enjeu, faut que je cherche un baquet pour la saison prochaine.
Je pense que, ouais, en tout cas il y a cet aspect d'orgueil. Et après, c'est des pilotes, c'est des sportifs de haut niveau, et je pense que Jean-Luc, par l'expérience qu'il peut avoir, peut aussi confirmer que les pilotes, dès qu'on touche un petit peu à leur orgueil, c'est terminé, ils deviennent des autres humains, si on va dire ça ainsi. Et c'est ça, en fait, qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'aspect de Sainz qui, cette année, on le sent un peu plus libéré, on le sent peut-être moins sous la pression de vouloir combattre pour avoir ce nouveau contrat avec Ferrari. Maintenant, il veut montrer sa valeur. Il y a une phrase qui était très intéressante au sortir de ce Grand Prix d'Australie, c'est « j'ai montré à tout le monde que je méritais ma place en Formule 1 ».
Ouais.
Je pensais pas que... Il y avait des gens qui pensaient justement que Carlos Sainz ne méritait pas une place en Formule 1, mais lui, en tout cas, estimait qu'il avait besoin de le montrer. Ce qui peut montrer justement qu'il a peut-être été touché en orgueil, dans son orgueil du moins, en ce début de saison, quand il a appris qu'il allait être remplacé par Lewis Hamilton.
Eh ben, on va écouter Fred Vasseur, le boss de Ferrari, sur la perf de son équipe ce week-end et sur celle de Carlos Sainz.
Ouais, je pense que ça a été plus qu'une bonne course, ça a été surtout un bon week-end parce qu'on a très bien attaqué le vendredi. Donc je pense qu'on a bâti le week-end depuis le début et on a eu un week-end sans aucun problème, 2-4 très bons pit-stops, une très bonne stratégie, tout s'est bien passé. Donc quand on met tout dans l'ordre, je pense qu'on est capable de se battre avec Red Bull. On était un peu inquiet que Carlos pousse les premiers tours parce que ce n'était pas trop le plan. Donc on était plutôt concentré là-dessus que sur les freins de Max Verstappen. On s'est engagés tous les deux à pousser jusqu'au dernier virage du dernier tour de la dernière course. Et je suis très content qu'il ait cette attitude et qu'il ait cette motivation. Donc c'est important pour nous, c'est important d'avoir deux voitures qui performent parce qu'on a besoin d'une émulation si on veut se battre avec Max.
Voilà, Fred Vasseur au micro du diffuseur Canal+. Paul, Carlos Sainz, franchement, depuis le début de saison, bon, il n'est pas là à Jeddah, donc ça tronque un petit peu, bien sûr, ses points au classement des pilotes. Mais on a même envie de dire qu'en termes de perf, c'est un peu meilleur que Charles Leclerc.
Ah ben c'est certain, et comme tu le précisais, c'est vrai que s'il avait été aligné lors de la deuxième course de la saison, il pourrait peut-être bien aujourd'hui être en tête du championnat du monde, puisqu'il n'a que 11 points de retard sur le leader Max Verstappen. Mais c'est vrai que c'est un pilote qui va vite, qui a souvent été comparé à Charles Leclerc, hein, qui est, on ne va pas se cacher, le petit protégé de la Scuderia Ferrari. Mais c'est vrai qu'on se rappelle que la seule victoire l'année dernière eh bien d'une Ferrari rouge, eh bien c'était pour Carlos Sainz dans les rues de Singapour au terme d'une course et d'une stratégie magnifique, hein, du pilote espagnol. Et c'est vrai que cette saison, il est présent, premier podium de la saison, une première ligne sur la grille de départ ici. Et on a pu voir d'ailleurs, hein, sur les premiers tours de roue, même si encore une fois le pilote néerlandais a eu des problèmes de frein, on a vu qu'il était là collé à 9 dixièmes dès le premier tour avec le DRS, qu'il a doublé d'ailleurs Max Verstappen, une magnifique pointe de vitesse. Et il a su gérer, même si Charles Leclerc est revenu, même si la Scuderia Ferrari a fait un doublé, eh bien Carlos Sainz a franchi la ligne d'arrivée devant son coéquipier. D'ailleurs, on a pu entendre le pilote monégasque Charles Leclerc dire que Carlos Sainz méritait sa victoire. Donc c'est vrai
oui.
que...
On va l'écouter, Charles, tout à l'heure, mais tu as raison, Paul. C'est Charles, à la fin de la course, il dit Carlos mérite sa victoire. Franchement, il est meilleur que moi sur ce week-end. Et Jean-Luc, alors... Est-ce que ça commence à être un peu problématique pour Charles? Je pousse, hein, oui. Bien évidemment, un petit peu le.
Non, mais la question est légitime.
La question, voilà, elle se pose. On est à trois courses. Il n'y a pas de Jeddah, donc ils en ont disputé deux armes égales, on va dire. Leclerc et Sainz. Et petit avantage à Sainz en termes de perf. Donc peut-être qu'il y a un moment, la question, elle va se poser, Jean-Luc.
Alors, la réponse est non, problématique, là aussi c'est beaucoup trop tôt, mais vous avez évidemment tous les deux raison. Avec un résultat blanc et pour cause à Jeddah, il se retrouve avec 40 points et Charles avec 47. C'est évident que Carlos est du niveau, mais ça, on le sait depuis la saison dernière et on le sait même depuis le début de sa carrière. Il a toujours été aussi rapide que son équipier, hein. C'est vraiment pas ça qu'on reproche, d'ailleurs on reproche absolument rien à Sainz. Donc, ce qu'il y a de bien dans cette équipe Ferrari, j'allais dire, c'est qu'il n'y a que des types bien. On a entendu Fred Vasseur, j'adore ce type-là, il connaît la course automobile comme personne, il a résumé parfaitement en disant « nous on s'occupe de nos affaires et c'est comme ça qu'on fonctionne, pas des autres ». Bon, il y a eu ce problème technique qui a éliminé Verstappen, mais que se serait-il passé? La question elle est à double sens. Si Verstappen avait été là, est-ce que Sainz aurait été en mesure de lui mettre la pression tout le temps, de lui faire peut-être, ça n'arrive jamais ou presque, mais commettre une erreur ou commettre une erreur de stratégie? La question elle est là. Donc que Sainz ait le talent, c'est plutôt l'histoire de l'opération, hein, qui était à mettre en cause, pas le talent et la rapidité de Sainz, et surtout pas l'honnêteté ni des deux pilotes l'un par rapport à l'autre, parce que Charles n'a jamais eu de difficulté à reconnaître quand Sainz a fait un parcours formidable.
D'ailleurs,
et là,
il est allé le saluer tout de suite, hein, dès qu'ils sont sortis de la voiture, tu sens que ça vit bien, quoi,
Ferrari. Ah non, c'est spontané. Là, en essai, en qualif, Charles aurait pu faire ou aurait dû faire la pole. Bon, il s'est loupé dans un secteur, c'est la vie, c'est comme ça, il n'a pas réussi. Mais on sait qu'il est extraordinairement rapide sur un tour, a priori un tout petit peu plus que Carlos, mais il ne l'a pas démontré. Puis voilà, Carlos a fait effectivement le week-end parfait. Alors après, bien sûr qu'il est aidé, mais ça c'est le sport mécanique, hein. Si on refait tous les championnats du monde depuis le début en enlevant les problèmes mécaniques, on ne va pas trouver les mêmes champions, c'est une évidence. Alors là, c'est comme ça que ça s'est passé, mais je veux dire, l'extrême honnêteté des trois, c'est-à-dire de Vasseur, il l'a dit, qui a négocié avec Sainz, en disant, écoute, tu vas pas rester la saison prochaine, ça n'est rien contre toi, on a eu la proposition avec Hamilton et le contact, c'est pas une brimade, entre guillemets, de ne pas te conserver, mais il fallait en garder un, et on a choisi Leclerc, à tort ou à raison. Et donc, je crois que les deux sont... Alors, l'orgueil dont parlait Alex, bien sûr que les grands champions ont tous ce sursaut d'orgueil, c'est surtout je crois que Sainz va négocier le meilleur contrat possible, et alors là il commence à avoir de très belles cartes en main, parce qu'on le sait bien, hein, il est dans le viseur d'Audi évidemment pour aller chez Sauber, qui on le sait déjà ne va évidemment pas conserver ses deux pilotes actuels, ça c'est une évidence absolue. Et puis il y a toujours quand même
le paquet chez Mercedes. Justement, Alex, j'allais te demander, est-ce que voir Sainz chez Mercedes là, avec les perfs, c'est totalement dénué de sens ou non, ça prend de l'épaisseur?
Ça prend de l'épaisseur. Ça fait référence aussi à une déclaration de Toto Wolff qui disait qu'il était prêt à attendre que la situation s'éclaircisse du côté de Max Verstappen pour prendre sa décision. Donc, d'une certaine manière, Mercedes est dépendante de Max Verstappen. Et c'est aussi, encore une fois, un peu Bah, à l'image de la carte de Carlos Sainz, en fait, Carlos Sainz est toujours dépendant un petit peu de ce qui se passe dans les écuries. Dans les écuries où il a pu passer chez Red Bull, il a voulu monter chez Red Bull lorsqu'il était chez Toro Rosso. On lui a dit non, donc du coup, il est parti chez Renault. Puis après, Renault l'a débarqué pour. C'était pour prendre Daniel Ricciardo, si je ne me trompe pas. Ouais. Et après, il a fallu qu'il trouve une autre écurie. Il est allé, McLaren l'a récupéré. Et là, cette fois-ci, il a eu l'opportunité d'aller chez Ferrari. Et maintenant, une fois qu'il est chez Ferrari, on lui dit bon, bah, en fait, finalement, il y a Lewis Hamilton qui arrive. Donc j'espère que cette fois-ci, là, encore une fois, Carlos Sainz, pour la deuxième fois de sa carrière, il aura l'opportunité de choisir là où il doit aller et non pas là où il est obligé d'aller.
Ouais, parce que c'est vrai que sa carrière a été un peu conditionnée par tous ces aléas. Bon, on va refermer le chapitre Carlos Sainz.
Petite statistique, juste par rapport à Sainz. Vas-y. Sur les 4 dernières victoires de Ferrari, c'est 3 pour Carlos Sainz.
Oui, c'est vrai.
Et c'est très évocateur quand même de la puissance de Carlos Sainz chez Ferrari.
C'est vrai que c'est un pilote dont on parle un petit peu moins que Charles Leclerc aussi. Moins bankable, moins bling-bling, mais très, très,
moins
très,
rapide
très,
en qualif. Voilà.
Moins rapide en qualif aussi, oui, c'est vrai, Jean-Luc, c'est vrai. Voilà pour la perf de Sainz. On va écouter Charles Leclerc quand même sur son week-end. Un peu déçu d'avoir raté sa qualif, mais encore une fois, tu le soulignais, Jean-Luc, et ça, c'est important de le dire, ils sont vraiment focus sur la performance du team, de l'équipe, et ça se ressent dans les mots de Leclerc, aux mots du diffuseur après la course.
Je suis content pour le team, après c'est sûr de mon côté, je suis un peu déçu. Hier, j'ai pas fait le job. Dans le deuxième stint aujourd'hui, j'ai eu du mal avec les pneus, j'ai eu du graining tout de suite. Troisième stint, c'était mieux, mais bon, ça a pas suffi. Mais bon, à la fin, le plus important, c'est que Ferrari soit au top. On fait premier et deuxième avec le meilleur tour en course, donc du coup, on a vraiment maximisé les points et c'était l'objectif en arrivant sur ce week-end. Faut qu'on finisse cette saison en se disant qu'on a maximisé toutes les opportunités. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a fait en tant que team et il faut que ça continue comme ça. Et quand on le fait, ben, ça porte ses fruits. Donc c'est bien qu'on soit seulement à 4 points. Bien sûr, je pense pas que ça montre la vraie image du début de saison parce que Max est bien sûr devant. Mais encore une fois, quand il y a des opportunités, il faut savoir les prendre. Et aujourd'hui, on l'a prise en tant que team, donc c'est top.
Bon, on reviendra sur les mots de Charles, hein, notamment sur le fait que ça ne reflète pas cette course, vraiment le rapport de force avec Verstappen depuis le début de saison. Mais moi, je voulais vous entendre aussi, les gars, sur ce qui avait changé à Ferrari. Parce qu'on sent que cette équipe allait transfigurer. On en a un peu parlé avant le début de saison, ce qu'ils avaient mis en place avec Frédéric Vasseur, fin de saison dernière, cet hiver. Mais vraiment, là, on sent que cette équipe a retrouvé de la confiance. T'as plus d'erreurs de stratégie, Jean-Luc. Enfin, tout a changé chez Ferrari.
Bah écoute, il y a surtout un homme qui est arrivé, je suis désolé, hein, il n'aimerait pas qu'on dise ça, mais ça change beaucoup, il s'appelle Fred Vasseur. Il est arrivé au dernier moment, vraiment au tout début, je me rappelle, je l'avais eu au téléphone juste avant, il est arrivé le 8 janvier, donc le 8 janvier 2023, et on sait très bien que pour faire une équipe de Formule 1, refaire une équipe de Formule 1, ou plutôt la faire évoluer à sa manière, bah, il faut un peu de temps, parce qu'il faut recruter certaines personnes, peut-être changer les attributions d'autres, enfin, il y a tout un travail de fond, et ça on peut lui faire confiance pour bosser peut-être... largement plus de 15 heures par jour depuis plus d'un an maintenant. Et puis, c'est une suite de petites modifications comme ça, de motivation également, parce que bah, Ferrari, au total, c'est évidemment largement plus de 1000 personnes. Donc, je suis certain qu'il a fait le tour des services. Il a été voir chaque gars, chaque responsable de département et peut-être même chaque mécanicien ou chaque acteur de près ou de loin en disant il faut tous pousser dans le même sens, il faut se mettre d'accord. Et c'est ce travail de fond très important dont il recueille les bénéfices aujourd'hui. Alors après, il a fallu faire évidemment une évolution notable de la voiture pour se rapprocher et pour, dans les faits, combler ce retard sur Red Bull qui reste absolument la référence. Par parenthèse, je rappelle que Red Bull a tout remis à plat et c'est ça qui est formidable avec Newey et Vaché. Ils auraient pu surfer sur la vague en disant bon, vu ce qu'on leur a mis la saison dernière, on va faire quelques petites modifs et puis ça va bien le faire encore pour 2024. Mais pas du tout. Ils ont remis la barre tellement haut, donc ça veut dire que Ferrari a considérablement progresser. Donc c'est le boulot de Vasseur qu'on commence à voir et c'est pas terminé parce qu'il y a sûrement un certain nombre de personnes qui sont en train de jardiner pour le moment puisque c'est la F1, mais qui vont arriver également dans le dispositif Ferrari pour faire un ensemble harmonieux et encore plus puissant. Donc je vais pas dire c'est normal, hein, mais c'est le résultat de tout le boulot initié par Fred il y a un peu plus d'un an.
Et puis je lisais quelques articles où c'est un emploi du temps ministériel, hein, Fred Vasseur, là, sur l'intersaison. C'était 50 réunions par jour, voilà, c'est des téléphones dans tous les sens, des coups de fil. Enfin, en termes d'organisation, d'emploi du temps, ça a travaillé très fort chez Ferrari cet hiver. Du coup, Paul, je te pose la question, est-ce qu'on peut y croire? Alors, Charles l'a dit, ça ne reflète pas quand même le rapport de force depuis le début de saison, ce qui s'est passé ce week-end à Melbourne. Mais Mais quand on voit l'augmentation de la perf des Ferrari, le niveau de Ferrari qui se rapproche de Red Bull, on se dit qu'il y a peut-être une petite carte à jouer pour la Scuderia.
Ouais, alors Nico, on aimerait évidemment y croire, que ce soit les passionnés de Formule 1, les gens de chez Ferrari, tout le monde aimerait voir la Scuderia en haut de l'affiche, mais on va quand même rappeler ce chiffre. L'année dernière, Max Verstappen a quand même remporté 19 des 22 courses. Il était parti quand même depuis le début de la saison avec 3 pole positions, 2 victoires. Il était quand même non pas en tête, mais deuxième lorsqu'il a dû abandonner. Donc il faut savoir raison garder. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la Scuderia Ferrari, via Fred Vasseur, comme le précisait Jean-Luc, dégage une certaine forme de sérénité. Et la saison dernière, on peut se souvenir que lorsque Ferrari ne marchait pas bien, lorsqu'il y a eu des problèmes, dans les stands, des problèmes sur la piste, eh bien, il ne s'est jamais affolé. Et c'est un travail de longue haleine, commencé donc le 8 janvier 2023, qui est en train de porter ses premiers fruits, même si Carlos Sainz avait remporté le Grand Prix de Singapour la saison dernière. Mais c'est vrai qu'on a envie d'y croire et on aimerait que l'écart se réduise, évidemment, entre la formidable machine Red Bull et la Scuderia Ferrari. Charles Leclerc le précisait, ce doublé est bon à prendre aujourd'hui. Il faut savoir saisir les opportunités. Les Rouges l'ont fait aujourd'hui en Australie. On peut espérer évidemment que cela continue, même si encore une fois, je pense qu'il faut savoir raison garder.
Alex, t'es plus optimiste toi ? On peut y croire ? Moi franchement, alors bien sûr, hein, Red Bull est au-dessus pour l'instant, mais on se dit qu'avec les évolutions qui vont arriver, avec cette équipe de Ferrari qui croit de plus en plus et qui va emmagasiner de la confiance dans son nouveau fonctionnement, quand tu commences à faire aucune faute en course, à être propre dans tes pit stops, à pas te tromper au niveau stratégique, que ça commence à se mettre en place, la confiance elle va faire qu'augmenter. Donc tu te dis que ça peut que se rapprocher du niveau de Red Bull.
Ça peut que se rapprocher du niveau de Red Bull fondamentalement et par rapport à tout ce qui est en train d'être réalisé du côté de chez Ferrari, mais pour cette saison, je ne pense pas que Ferrari ira chercher, il se battra pour le titre avec Max Verstappen ou dans ces eaux-là. C'est plus 2024, c'est le début d'un long chemin pour retrouver les sommets par rapport à Frédéric Vasseur, par rapport à ce qu'il a apporté au niveau de son arrivée et par rapport aux garanties qu'il peut apporter aussi par rapport à son projet. Pour moi, l'exemple parfait qui montre que justement Ferrari est sur le point de revenir au sommet, c'est d'avoir réussi à convaincre Sir Lewis Hamilton de venir chez Ferrari, de l'avoir arraché à Mercedes pour le faire venir du côté de chez Ferrari, parce que c'est pas réellement simple de réaliser ça. D'autres ont essayé par le passé, ils n'ont pas réussi, et donc justement Frédéric Vasseur, par le nouvel organigramme qui a été installé, qui veut installer aussi également, il est en train d'aller chercher des éléments, des têtes pensantes de tous les côtés du paddock, du côté de chez Red Bull, du côté de chez Mercedes notamment, Loïc Serra qui va rejoindre Ferrari très prochainement. Il y a même aussi Jérôme D'Ambrosio qui devrait aussi rejoindre Ferrari cette fois-ci, par exemple pour l'aspect au niveau de la FDA de la Ferrari Driver Academy. Il va aussi chercher des personnes du côté de chez Red Bull. Il y a le rêve qu'est Adrian Newey aussi également, où il y aurait, selon la presse italienne...
Tu penses que c'est faisable, ça ?
Je pense que c'est... vu tout ce qui se passe du côté de chez Red Bull, moi, je pense à tout. Hein. J'espère du moins que ça peut se réaliser, l'aspect d'Adrian Newey du côté de chez Ferrari, parce qu'on se souvient des déclarations d'Adrian Newey qui expliquait justement qu'il l'aurait rêvé d'une certaine manière de travailler, de collaborer avec Lewis Hamilton du côté de, ensemble dans une même écurie. C'est une possibilité qui peut arriver. Et par rapport à tout ce qu'est en train d'accomplir Fred Vasseur, la manière dont il est en train de reconstruire Ferrari, on sent une Scuderia qui est plus conquérante, plus forte et prête à affronter chaque adversité. Avant, Ferrari ne faisait plus peur, sur les 10 dernières années.
Ah, mais avant, à chaque fois qu'il y avait un pit stop, tu savais qu'il allait avoir une saucisse.
Voilà, c'est Scuderia fait moins rien. Clairement, c'était ça sur les 10 dernières années. Là maintenant, Frédéric Vasseur est arrivé. Il y a une nouvelle impulsion, une émulsion en interne qui permet justement d'avoir une Scuderia Ferrari qui est beaucoup plus conquérante. Cette année 2024, c'est le début d'un très très long chemin qui doit viser justement Charles Leclerc et Lewis Hamilton à aller chercher le titre en 2025 ou assurément 2026 avec l'arrivée dans la nouvelle réglementation.
Projet 2026 avec la nouvelle réglementation. Les gars, on va se pencher maintenant sur Red Bull quand même, qui pour la première fois de la saison est dans le dur. Max Verstappen qui abandonne au quatrième tour, problème de frein. Sergio Perez, cinquième, mais qui termine à 56 secondes de Carlos Sainz. C'est plus l'écart en fait, plus que la place qui choque quand on connaît les perfs de cette voiture Red Bull normalement. On va écouter avant de débattre et d'avoir vos avis sur ses premiers couacs dans cette saison. Christian Horner, le boss de Red Bull sur l'abandon de Verstappen.
Il s'agit d'en tirer des leçons. Nous avons eu 2 ans sans DNF mécanique, ce qui est remarquable. Donc il s'agit de comprendre ce qu'il a causé, d'en tirer les enseignements et de continuer à avancer. Après, il est toujours en tête du championnat, même avec ce DNF.
Christian Horner avec nos confrères de Canal+. Jean-Luc, il le dit, Horner, hein, pendant 2 ans, on n'a eu aucun problème de fiabilité, aucun problème mécanique. Donc voilà, ils vont essayer d'analyser ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus le feu à la maison Red Bull. C'est quand même au 4e tour, c'est un problème sérieux au niveau des freins. Et puis ça montre que Red Bull n'est peut-être pas aussi dominateur que les 2 dernières saisons, hein, si c'est la première fois en 2 ans qu'ils ont un petit souci comme ça.
Ben oui, mon Nico, c'est pas le feu à la maison Red Bull, c'est le feu au frein arrière droit de la Red Bull de Verstappen. J'allais pas la louper, évidemment, tu me l'as tendu au bout d'une perche. Alors écoute, oui, bon, là il faut savoir quel est le problème spécifique. Je pense pas que ce soit très compliqué pour Red Bull de comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai écouté aussi ce qu'a dit Verstappen avec attention, et il a évoqué ce problème dès le départ. Il sentait un comportement bizarre de sa voiture, il le disait, je la sens pas, elle m'a échappé. D'ailleurs, il a eu, et c'était parce que le frein arrière droit devait commencer à chauffer terriblement. Il faut rappeler quand même que le système de frein en carbone, hein, fonctionne aux alentours de 1000 degrés. Voilà, si tu mets 100 degrés de plus, et c'est peut-être ce qui s'est passé, est-ce que c'est un problème de refroidissement, tout simplement, d'une écope de frein un peu bouchée par quelque chose? Ça peut arriver par un débris, hein, une visière de casque ou n'importe quoi. C'est arrivé, je crois, à Ocon. Hein, donc là, pendant ce Grand Prix, ça peut être des feuilles, ça peut être n'importe quoi. Bon, donc c'est un problème spécifique qui ne remet pas en cause, je pense, puisque apparemment Pérez n'a pas souffert de frein. Lui, il n'a pas prétexté, semble-t-il, de problèmes mécaniques. Et puis, donc, on va résoudre ce problème-là. Alors, le feu à la maison Red Bull, non, quand on a un Verstappen qui, effectivement, sort le tour qu'il faut en qualif. Et là aussi, je crois que. Il ment pas, Verstappen. Il était surpris lui-même. Il s'est dit, ça va être difficile. Il a tout mis ensemble. C'est ça, les grands champions. C'est-à-dire, le grand champion, c'est le type qui, au moment où il faut, il met tout ensemble. Il met les 3 secteurs ensemble et il fait la pole. Et il se disait lui-même, les Ferrari sont très rapides. On les a vus, d'ailleurs, briller en essai libre. Elles sont bien également en test longue durée. Alors, on ne sait jamais la charge de carburant, on ne sait jamais la programmation moteur, etc. Mais bon, ils étaient bien partout, il a dit, ça va être moins facile. Avec ce problème mécanique, ça a été plus que moins facile, ça a été catastrophique pour lui. Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que là aussi, et c'est tout le principe de Vasseur qu'il a dit à plusieurs reprises depuis le début de saison, si on pousse ses adversaires à la limite, là qu'apparaissent les failles. Donc là, il y en a eu une. Est-ce qu'elle est due à cette pression de Ferrari? On ne sait pas. Mais en tout cas, il faut attendre encore un peu pour voir si ça peut se reproduire. Et notamment sur le juge de paix absolu pour moi, qui est Suzuka, évidemment.
Ouais. Paul, on ne sait pas ce qu'aurait pu donner Verstappen, bien évidemment, sur cette course, mais quand on voit la perf de Pérez, qui est quand même très loin, on se dit que même sans souci mécanique, ça aurait pu être un petit peu plus dur pour Max à Melbourne.
Oui, même si on sait quand même qu'il y a une vraie différence entre Max Verstappen et Sergio Pérez. Mais là où le bas blesse pour Red Bull, c'est que c'est vrai que Sergio Pérez nous avait habitués en tout cas à de belles remontées, notamment sur des circuits comme l'Albert Park de Melbourne, des circuits urbains ou semi-urbains. Et c'est vrai que là, il a pioché, terminant, vous le rappeliez messieurs tout à l'heure, à près de 56 secondes, je crois, de Carlos Sainz, le vainqueur. Peut-être en proie au doute, Sergio Pérez depuis le début de la saison, même s'il n'est pas très très loin au championnat. Mais lorsque l'on se compare à Max Verstappen, tout est vraiment beaucoup beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai que Red Bull va devoir peut-être repenser un petit peu sa copie. Mais encore une fois, le juge de paix sera certainement à Suzuka le 7 avril prochain. Red Bull n'avait plus abandonné depuis 2 ans. Mais c'est vrai que Max Verstappen, d'ailleurs, l'a dit lors de son abandon, il n'a pas apprécié la défaillance technique de sa monoplace. Donc je pense que les ingénieurs de chez Red Bull vont bien bosser durant les 15 jours. C'est un épiphénomène, je pense, chez l'écurie autrichienne. Et je pense que dans 15 jours, Max sera de nouveau là, bien présent. Mais pour Sergio Pérez, ça devient quand même un petit peu plus compliqué. Il était largement dominé, on le sait, par son coéquipier. Il est aujourd'hui dominé et par les Ferrari, mais également par les McLaren de Piastri et de Lando Norris. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit peu de pain sur la planche pour cette formation autrichienne aujourd'hui.
Alors en fait, le truc, Alex, c'est que Pérez, on est d'accord que si Verstappen a un souci de la sorte, c'est là qu'il doit montrer son niveau. C'est là qu'il doit aider l'équipe à aller chercher des points. C'est son boulot. Et là, il ne répond pas aux attentes, en fait.
Bah, c'est tout ce qu'on n'aime pas chez Sergio Pérez. C'est-à-dire qu'il a un travail à faire. L'an dernier, il avait la monoplace la plus incroyable de l'histoire de la Formule 1 et même la plus dominante de l'histoire de la Formule 1. Cette année, on devait repartir sur les mêmes dispositions. En tout cas, il a la meilleure monoplace cette saison avec Max Verstappen. Et son travail, c'est de terminer toujours derrière Max Verstappen. Et si Max Verstappen n'est pas là, il doit remporter le Grand Prix. Ce qu'il n'a pas fait, il a même été très très loin de tout ça. Il était même en bataille pendant un certain temps avec Fernando Alonso, qui est avec une Aston Martin, qui, on rappelle, Aston Martin est peut-être la troisième, quatrième force de cette saison 2024 de Formule 1. Donc, c'est tout ce qu'on n'aime pas chez Sergio Pérez, et qui peut lui permettre de voir Red Bull, d'une certaine manière, lui coûter sa place. Parce que Red Bull, il demande justement à Sergio Pérez de tout le temps terminer juste derrière Max Verstappen quand il n'est pas là, et c'est ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui. Donc, la vérité de Melbourne n'est pas la vérité d'une saison tout entière, parce que c'est un circuit qui est bien sûr très particulier. On sait que Red Bull a été mis quand même beaucoup, beaucoup sous pression par la Scuderia Ferrari, et dès la première séance d'essais libres, c'était reconnu d'ailleurs par Red Bull en disant que, par la voix d'Helmut Marko, que Red Bull avait eu besoin justement de peaufiner encore plus ses réglages que lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite et du Grand Prix de Bahreïn, pour justement contrer effectivement les différentes offensives de la Scuderia Ferrari. Mais même par rapport à ça, Pérez ne peut pas terminer aussi loin justement derrière les McLaren et également derrière les deux Ferrari, aucunement dans la bataille pour la victoire. Et ça, c'est problématique vis-à-vis de l'avenir de Sergio Pérez du côté de chez Red Bull.
Il faut quand même préciser que Sergio Pérez a été pénalisé, hein. Jean-Luc le disait au début de l'émission, quand même sur la grille de départ. On peut peut-être penser qu'avec trois places de plus, Sergio Pérez aurait peut-être titillé les McLaren plutôt que de terminer à la cinquième position de ce Grand Prix.
Alors, la pièce à verser au dossier, c'est ce que je voulais apporter comme complément, c'est le temps en course. Et ça parle. 1 minute 20 secondes, 388 millièmes au 47e tour, pardon. C'est le temps réalisé par Sergio Pérez. Et ben, il est devancé par les quatre qui sont devant lui. Sainz fait 1:20.031. Leclerc, on l'a rappelé tout à l'heure, 1:19.813, c'est le plus rapide. Norris, 1:19.915. Et Piastri, 1:20.199. Ça veut dire que même George Russell, au 53e tour, est plus rapide que Sergio Pérez. Donc, le problème, il est précisément là. C'est que Sergio n'a pas été assez rapide en course. Alors, comme Alex le soulignait, on attend de lui qu'il soit deuxième. Et il l'a fait brillamment l'an dernier, malgré tout, en terminant deuxième du championnat, ce qui a apporté le premier doublé à Red Bull. Mais ça veut dire aussi que, des fois, il ne peut pas le faire. Et là, ça a été absolument manifeste. Il est à son niveau. Alors, qu'aurait-il fait s'il était parti, effectivement, troisième, qui était sa position logique sur la grille ? Peut-être forcément un petit peu mieux, mais le gouffre là est énorme, hein, malgré la pénalisation de trois places, terminé à 56 secondes avec un temps en course qui est le cinquième, donc à la place qu'il occupe, ça pose question.
Et je reviens un peu sur mon petit débat de base, sur est-ce que Ferrari peut y croire, les gars. Mais si Pérez n'est pas au niveau comme ça, si t'as un ou deux soucis de fiabilité côté Verstappen, est-ce que Ferrari peut pas aller chercher le championnat constructeur avec un Leclerc et un Sainz aussi régulier, Jean-Luc?
Ah, bien sûr que oui.
Voilà.
Ah ben oui, là c'est clair. Bon, tu vas me dire, on va pas tirer des conclusions après trois grands prix, mais enfin, 97 points en l'état, parce que les pannes mécaniques, ça fait partie du jeu en sport mécanique, évidemment. 97 points pour Red Bull, 93 pour Ferrari. Derrière, il y a un gouffre, hein, puisque McLaren n'en a que 55. Donc absolument, le championnat constructeur, et on sait que même si c'est pas aussi flamboyant qu'un titre pilote, ben si, pour les écuries, c'est énorme, à tout niveau. D'abord, ça démontre effectivement le niveau, c'est tout bête à dire, mais du constructeur, et puis également, c'est synonyme de millions de dollars, voire dizaines de millions de dollars. Donc, bien sûr. Et puis, ils ont deux pilotes qui se poussent et qui, eux, sont du même niveau. On le dit depuis le début de cette émission et depuis le début de la saison. Ils se poussent tous les deux dans le bon sens, alors que c'est pas le cas, évidemment, chez Red Bull où Verstappen est sans coudée au-dessus. Voilà.
Ouais. Précision, Alex, mais Pérez, il fait partie des pilotes en fin de contrat, hein, cette année en plus. Donc,
bon courage s'il quitte Red Bull pour trouver une autre écurie, hein, parce que les autres écuries ont l'air d'avoir des dispositions un peu différentes dans leur manière de recruter.
Ouais.
Attention, il amène des sous. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah oui. Il est toujours soutenu par Carlos Slim.
Écoute, a priori, il a toujours ça dans sa valise. Maintenant, ouais. Voilà. A priori, ça aide. Ça aide. En Formule 1, tu sais, ça aide pas mal. Hein.
Oh oui. Ah, oui. Carlos Slim, qui est une des plus grosses fortunes mondiales. Un Mexicain, bien évidemment. Je voulais bien évidemment vous entendre aussi sur Mercedes, les gars. Mercedes qui est... en crise, qui ne répond plus. Deux abandons, c'était plus arrivé depuis l'Autriche en 2018, plus de 5 ans. Alors dans des circonstances différentes, hein, avec notamment ce crash de George Russell suite à un freinage illicite de Fernando Alonso, ou en tout cas qui a perturbé George Russell dans sa trajectoire. On a eu peur hein, d'ailleurs pour George Russell, qui s'est retrouvé en plein milieu de la piste avec sa monoplace sur le flanc et qui a hurlé dans sa radio, vous l'avez entendu dans la production tout à l'heure, drapeau rouge au milieu de la piste, donc on a eu un petit peu peur pour Russell. C'est un peu Alex ce qu'on voit depuis le début de saison chez Mercedes, c'est-à-dire qu'en piste c'est compliqué. Hamilton d'ailleurs a dit qu'il avait vécu une des pires qualifications de sa carrière, peut-être qu'il était habitué, il n'est pas passé en Q1 on le rappelle, hein, 11e de la séance, qu'il était habitué désormais à ne plus passer en Q1, Hamilton qui avoue aussi qu'il est moins performant que Russell, qu'il n'arrive pas à dompter vraiment sa monoplace, voilà, ça va pas bien quoi, chez Mercedes, hein. Y a rien qui se met en place.
Au dernier Grand Prix, on avait dit que c'était inquiétant mais pas alarmant. Bon, je pense que là, l'alarme, elle est tirée de tous les côtés à Brackley et à Brixworth. C'est que je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit aussi alarmant la situation et qu'on arrive en Australie pour justement re-régler les problèmes. Un des points qui pour moi est extrêmement problématique, c'est qu'on est en 2024, on est au Grand Prix d'Australie et on fait les mêmes choses qu'au Grand Prix d'Australie 2022, à savoir des expériences. On fait encore des expériences du côté de chez Mercedes sur cette W15 cette fois-ci, et comme on avait fait justement par rapport à la W13. C'est problématique parce que c'est la dernière saison de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton et Mercedes, c'est l'une des plus belles collaborations de l'histoire de la Formule 1. Il y a notamment 8 titres constructeurs pour Mercedes depuis entre 2014 et 2021. Et Lewis Hamilton a participé justement drastiquement à ses succès. Et là, on ne va pas assister à des très beaux au revoir entre Lewis Hamilton et Mercedes. La faute, justement, à une W15 qui ne répond absolument pas aux attentes, que ce soit pour Lewis Hamilton, mais également aussi pour George Russell. Parce qu'Hamilton, oui, certes, il ne se qualifie pas en Q2, mais c'est un écart qui est extrêmement minime avec George Russell. Donc, ce n'est pas essentiellement, oui, Russell qui est meilleur par rapport à Lewis Hamilton, même si ça l'est un petit peu. Mais il y a cet écart qui est quand même assez minime. Et ces au revoir qui sont en train de mal se dérouler
ouais,
du côté de chez Mercedes,
ça gâche la fin de l'histoire.
Ça gâche la fin de l'histoire. Et moi, je m'interroge réellement sur l'aspect de comment Mercedes en fait peut se relever, comment Mercedes peut convaincre notamment un Max Verstappen de venir du côté de chez eux par rapport à l'opportunité qui peut se présenter. Aujourd'hui, Mercedes n'est plus une force en présence. Red Bull l'est, Ferrari l'est, McLaren est en train de le redevenir, Aston Martin est sur une pente ascendante, c'est pas en termes de performance absolument fantastique à l'heure actuelle, mais le projet est intéressant. Aujourd'hui, du côté de chez Mercedes, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations et la situation est extrêmement alarmante aujourd'hui du point de vue de la performance, mais du point de vue du projet tout entier. Comment convaincre des pilotes de venir du côté de chez Mercedes pour remplacer Sir Lewis Hamilton? Et aujourd'hui, on est au 3e Grand Prix de cette saison en Australie. Suzuka va être un juge de paix pour beaucoup, beaucoup d'écuries, en particulier pour Mercedes. Mais là, les au revoir entre Hamilton et Mercedes ne se font pas de la meilleure des manières. Il a quand même comparé cette voiture à l'aspect de 2009. 2009, ouais. McLaren, c'était pas bon du tout. C'était même l'une des pires voitures qu'il a piloté Lewis Hamilton. Il avait comparé cette monoplace de 2009 à, je crois, à la W13 de 2022. Là, maintenant, il compare ça à celle de 2024. C'est quand même très éloquent de la situation aujourd'hui du côté d'Hamilton qui doit sans doute attendre patiemment que cette saison se termine et qu'il file chez Ferrari.
Ouais, on ressent un vrai spleen là, c'est vrai, chez Lewis Hamilton. Jean-Luc, Mercedes, 5e force du plateau. En fait, c'est ça. Alors, la situation, elle est comptable puisqu'ils sont derrière Aston Martin qui est 4e. Hein. Bon, il n'y a qu'un petit point d'écart, mais ils sont... Et puis surtout, Alex le disait, tu sens que dans la dynamique du moment, tu es très loin derrière Red Bull et Ferrari. McLaren, t'es passé devant. Et même Aston Martin match avec toi.
Ça va pas, c'est clair qu'on avait commis une erreur de concept et on s'y est accroché la saison dernière. L'erreur de concept, elle remonte à 2022 avec, on s'en rappelle, ces flancs particuliers, bref, ce flux, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, hein, évidemment. Et puis ce changement de réglementation en procurant, donc maintenant en autorisant plus d'appui aéro venant du dessous de la voiture, a été évidemment mal négocié. Ça, c'est toute l'histoire aussi de la Formule 1. On a vu qu'il y a eu des règnes, il y a eu celui de Mercedes qui a été terrible. terrible, écrasant, où les adversaires ne parvenaient pas à revenir au niveau depuis le changement de réglementation de 2014. Et évidemment, Hamilton, le premier, en a considérablement profité, à part l'intermède de 2016 avec Rosberg. Mais sinon, il était au-dessus. Et puis là, on s'est raté dans le concept. On s'y est accroché, donc ce qui était évidemment une erreur pour la deuxième année. Là, on a à nouveau changé son fusil d'épaule. On a effectivement, pour la W15, comme l'évoquait Alex, un concept totalement différent qui fonctionne, mais on va dire moyennement. Bah les autres sont pas statiques, hein, les autres progressent.
Ben oui.
Et puis moi, j'ose poser la question, j'ose la question sacrilège. Est-ce que bah, dans sa tête, malgré tout, malgré le septuple champion du monde qu'il est, malgré les 103 victoires,
il n'est pas déjà parti ?
Bah écoute. On peut se poser la question, parce que là il est dominé en qualif les trois fois, alors certes parfois de très peu, mais bon, c'est 1 à 2 dixièmes. Bah écoute, c'est 1 à 2 dixièmes, et puis surtout il est derrière, hein. Le principal adversaire d'un pilote, c'est son équipier, et quand on entend Hamilton se plaindre à ce point de la voiture en disant bon, en clair, bah, j'arrive pas à la faire marcher, elle est pas bonne, et de l'autre côté bah, il est légèrement contredit par Russell qui dit non, moi je trouve qu'elle est pas mal du tout, il y a encore du travail à faire de développement, mais elle est pas trop mal. Il faut attendre la suite, hein, mais effectivement, ça pourrait mal se terminer. Puis je rappelle quand même que tout Toto Wolff qu'il est, là aussi, avec les grands discours qui sait nous servir, qui sont finalement aussi focus, j'y vais carrément, que ceux de Christian Horner, par exemple, eh ben, il a appris qu'Hamilton le quittait au dernier moment. Hein. Donc,
ah oui.
Je pense que
trahison.
Oui, la grande amitié dont on nous faisait des tartines indéfectibles, il allait rester lié à Mercedes toute sa vie, etc. C'était formidable, on en pleurait. Bah non, ça n'a pas l'air d'être ça du tout. Et puis, s'il continue à se faire régler régulièrement par Russell, alors qu'il n'y a pas de raison. Bon, la question sacrilège, je vais également la poser, puisqu'on est là pour ça, hein, personne ne nous écoute, ça tombe bien. Est-ce que Russell a toujours eu exactement la même voiture que Lewis Hamilton depuis
qu'il
roule chez Mercedes?
Oui, c'est ce que tu nous dis depuis le début de saison. Bah, oui,
je l'ai
oui.
posé.
Bien évidemment.
Mais dans un passé récent, messieurs, on parle de la condition aujourd'hui de Lewis Hamilton, qui est peut-être déjà parti chez Ferrari. On se souvient que lorsque Sébastien Vettel dominait évidemment de la tête et des épaules, hein, le championnat du monde avec 4 titres consécutifs sur sa Red Bull, bien les dernières années de Vettel chez Red Bull, avant qu'il quitte Red Bull pour aller piloter la Ferrari, eh bien les dernières années de Vettel chez Red Bull, hein, avaient été largement compliquées. Sa dernière saison, on disait du pilote allemand qu'il était déjà parti chez Ferrari, bien peut-être le même scénario pour Lewis Hamilton, avec un palmarès encore plus beau que celui de Sébastien Vettel. Mais c'est vrai que ça ne marche plus chez Mercedes aujourd'hui, et peut-être que le degré de motivation à son âge, eh bien, laisse à penser que Sir Lewis Hamilton, ouais, effectivement, est peut-être déjà parti dans le giron Ferrari.
Bon, après, souvent, avant un divorce, en général, ça se passe pas très bien. Tu vois, avant de quitter ta femme, en général, il y a une petite phase de tension.
Je sais pas, ça m'est jamais arrivé.
Ouais,
non plus.
Bah, c'est bon. Je dis pas, ça m'est arrivé. C'est vrai. Oui.
Ah voilà, si je visais quelqu'un un peu, mais bon, je voulais pas trop en parler. Non, mais je vous cite quand même Hamilton qui dit, parce que là j'ai retrouvé la décla, j'ai l'habitude maintenant d'être éliminé en Q2, donc là déjà, boum, petit scud. Alors il s'inclut un peu hein, dans son échec, mais c'est un peu un sentiment plat, il dit. Bon, c'est pas génial, mais en gros, ça devient une habitude. Je sais pas si je gère bien la situation, je suis moins constant que George. Il fait un meilleur travail avec notre voiture. 3 qualifications de suite où il me devance, et il a l'air de se sentir plus à l'aise que moi, donc il est très lucide quand même. Il dit, j'essaie de garder la tête hors de l'eau, et j'essaie de réaliser que ça pourrait être bien pire. Donc il est un peu désabusé, quoi, en fait, Lewis. C'est pas le mental, Alex, du champion du monde qu'on connaît, de la bête de victoire, du pilote qui est assoiffé de gagne, quoi.
Non, on se posait la question au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Bah, la réponse, elle est toute claire aujourd'hui. Hein. Là, c'est vraiment un pilote qui, tout grand qu'il est, bien évidemment, Lewis Hamilton, attend juste que cette saison se passe, que forcément, il est plus impliqué, il est plus impliqué dans le projet Mercedes, forcément, puisqu'il part à l'issue de cette saison. Au niveau des améliorations, on a beau dire, avec ses discours potentiellement de façade, que oui, Lewis Hamilton et Mercedes, on va finir au mieux cette saison, on va collaborer au mieux cette saison. Oui, mais il faut aussi parler factuellement que Lewis Hamilton, il part à la fin de cette saison, donc il n'aura pas le droit à tout ce qu'il y a en termes d'amélioration par rapport pour préparer justement la suite de la saison, mais qui prépare également la voiture de l'année prochaine. Donc c'est un peu se tirer, je pensais au début que c'était un peu se tirer une balle dans le pied de retirer un peu des éléments d'amélioration à Lewis Hamilton. Finalement, au vu, j'aime pas dire le mot comportement parce que ça fait un peu péjoratif de dire ça, mais c'est l'aspect un peu le comportement de Lewis Hamilton. Bah, ça se comprend finalement de plus prioriser Russell, même s'il y a tout le palmarès et toute l'histoire entre Hamilton et Mercedes, parce que Hamilton, il ne se sent plus réellement pilote Mercedes aujourd'hui.
Jean-Luc, un petit mot.
Alors, juste un mot, pardon. Il y aura des rebonds, hein, parce qu'effectivement, oui. On va nous-mêmes nous reprendre de volée ou se reprendre de volée. Peut-être qu'au Japon, on va retrouver l'Hamilton étincelant, on va savoir
bien
pourquoi.
Bien évidemment, mais après, là, on analyse les courses au moment.
On est d'accord. Voilà, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, voilà, après l'Australie.
Quand Hamilton remportera le Grand Prix du Grand Prix du Japon, on dira pas la même chose.
Non, mais c'est sûr qu'après, nos analyses vont forcément évoluer au cours de la saison. Mais force est de constater que là, après trois Grands Prix, on a un Hamilton qui est un peu en perdition. Et on sent clairement, pas ce désamour un petit peu, mais ce détachement qu'il peut y avoir entre le pilote phare de Mercedes et son équipe.
Jean-Luc, Hamilton est en perdition. Nico, excuse-moi de te couper, mais Hamilton, il est en perdition depuis qu'il a perdu le titre face à Verstappen en 2021, quand même. Hein. Soyons clairs. Hein, il a pris un coup sur la tête lors de ce dernier Grand Prix, ce dernier tour de folie. Depuis, ça ne fonctionne plus chez Mercedes, tout simplement.
Ouais. C'est vrai, c'est dur. Un petit mot sur McLaren. Jean-Luc, qui s'affirme derrière Red Bull, derrière Ferrari. Il termine 3-4e. Piastri aurait peut-être pu signer un petit podium à la maison, mais on a fait le choix de faire passer Norris à la place de Piastri pour assurer la troisième place. C'est fiable, côté McLaren, on le disait. Sur la fin de saison dernière, ils ont montré de belles choses et continuent à surfer sur cette dynamique.
Oui, là, c'est du super boulot. Écoute, là, effectivement, on est resté au niveau, ce qui est pas simple. Hein. Ça veut dire qu'on a considérablement progressé également pour rester en 2024 au niveau de la deuxième partie de la saison 2023. Donc clairement, c'est la troisième force du plateau. C'est évident, et puis très proche quand même, parce que je rappelle que à l'arrivée, et même s'il y a eu un safety car à la fin, on est à moins de 6 secondes pour les 3 premiers. Non, on est dans le coup. Puis j'ai rappelé tout à l'heure les temps réalisés en course. Oui. Les pilotes McLaren sont là. Là aussi, on a vraiment une paire de pilotes absolument remarquables qui se poussent l'un l'autre, qui pour le moment restent dans un excellent état d'esprit. Et on l'a vu quand on a demandé tout de suite à Oscar de laisser passer Lando parce qu'il était sur une stratégie différente. Ce qui était vrai, il n'a pas chigné, il n'a pas rechigné, il n'a pas traîné la patte. Instantanément, il l'a laissé passer parce qu'on pensait chez McLaren, et ce qui a failli être le cas, que Lando était en mesure peut-être d'aller chercher Charles, c'était pas rien. Non, là, ça fonctionne. Là, la mécanique est parfaitement huilée. Et puis, par parenthèse, je dirais, et c'est ça qui est important, est-ce que Renault, Alpine, comme vous voulez, n'a pas, si on a le temps d'en dire un mot, on a quand même une écurie avec un moteur Mercedes qui cartonne. Ça veut dire que le problème chez Mercedes, c'est bien le châssis, pour le coup. C'est l'exploitation, c'est pas le moteur. On voit bien ce que McLaren est capable d'en faire.
C'est clair. Bon, on reviendra sur notre petit Punto Alpine là en fin de podcast, comme d'habitude. Ce sera pour Paul. Hein. Prépare-toi mentalement, mon Paul.
Merci, Nico.
C'est pour toi le Punto Alpine. Alex, je voulais t'entendre aussi. Je voulais t'entendre aussi sur une histoire du week-end quand même. C'est l'histoire de Williams et de Alex Albon qui a piqué la voiture de Logan Sargeant. Faut que tu nous expliques ce qui s'est passé. Pourquoi du coup il n'y a eu qu'une seule Williams d'alignée sur ce Grand Prix et le désaveu terrible. Franchement, ça faisait de la peine pour le pauvre Logan Sargeant.
Ouais, ça faisait de la peine, mais pour moi je trouve que c'est honteux d'avoir fait ça à Logan Sargeant. Mais
alors raconte-nous ce qui s'est passé.
Pour expliquer du coup, c'est-à-dire qu'Alex Albon en première séance d'essai libre s'est crashé assez violemment quand même tout de même, mais lui il va bien, il a été ok. Le problème c'est que son châssis a été fissuré. Et comme le châssis était fissuré, il n'était pas utilisable pour la suite du week-end. Tout le monde pensait, Williams, ils ont quand même des châssis de rechange. Eh bien, pas du tout. Et donc, ils ont été dans l'obligation, finalement, du côté de chez Williams, de faire un choix, soit de dire à Alex Albon qu'il ne ferait pas le Grand Prix d'Australie, la suite du Grand Prix d'Australie, ou sinon de prendre la voiture de Logan Sargeant. Et finalement, ils ont dit à Logan Sargeant, écoute, tu vas t'installer en cuisine et tu vas faire les frites, parce que on va te donner ta voiture à Alexander Albon. Et c'est ce qu'ils ont réalisé. Et c'est malheureux. Pour moi, c'est vraiment... Alors, c'est honteux. Pour moi, j'estime que c'est honteux parce qu'on a enlevé le droit de courir à Logan Sargeant. Et c'est un énorme désaveu vis-à-vis de la confiance de Williams vis-à-vis de Logan Sargeant. Dans le sens où, en faisant ça, Williams a dit ouvertement, on n'a pas confiance sur Logan Sargeant. On estime qu'il ne peut pas apporter assez de performance. Oui, ok, on sait très bien que Logan Sargeant est moins fort qu'Alexander Albon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sur ce Grand Prix d'Australie, c'est pas lui qui a planté la voiture.
Alex. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ok, c'est terrible pour lui. Mais il y a un moment, il y a un choix d'équipe à faire.
Bien sûr.
Et ton pilote performant depuis le début de saison, c'est Albon. Et d'ailleurs, il termine 11e. Donc, c'est que le gars, il est pas loin d'aller chercher des points. Donc, ça leur donne pas si tort que ça au final.
Ça ne donne pas si tort que ça. Moi, je parle juste vis-à-vis de l'image.
Dans la morale.
De la morale. Mais surtout de la question d'image. Parce que ça servait à quoi finalement de prolonger Logan Sargeant si au troisième Grand Prix de cette saison 2024 de Formule 1, tu fais ça et tu lui mets un énorme désaveu. Bon courage à James Valls pour justement permettre de sauver mentalement Logan Sargeant qui vit l'un des pires moments de sa carrière, pas de Formule 1, mais de sport auto tout simplement. Hein, parce que lui retirer le droit de courir, que son écurie lui retire le droit de courir de cette manière-là, je sais que c'est pour des questions de sport, pour des questions justement de se donner le plus de chances possible d'aller chercher le meilleur résultat. Même, on parle après justement le Grand Prix, et après le Grand Prix, Williams n'a pas marqué de points.
Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, Jean-Luc, ça, dans l'histoire.
Alors là c'est pareil, j'ai écouté attentivement ce que disait Alex. Alors, oui, c'est un scandale, mais d'ailleurs James Love l'a dit lui-même, c'est un scandale, moi je dis, pour la Formule 1 dans son ensemble et pour l'équipe Williams. Alors la décision, sincèrement, je suis patron d'équipe, je prends la même.
Bah oui, c'est ça
vous
en fait.
Deux chiffres. Bah
sportivement,
oui.
Sportivement, premier Grand Prix, prendre la même.
Bah, et voilà, il n'y a qu'une voiture. Bon, voilà, il n'y a qu'une voiture. Il n'y aura qu'un pilote dedans. C'est bête à dire. La deuxième, elle est fracassée. Bon, Logan Sargeant, premier Grand Prix, 20e et dernier. Albon, 15e. Et le Grand Prix précédent, à Jeddah, Sargeant est 15e. Albon est 11e, aux portes des points. Et puis l'an dernier, Albon rapporte 27 des 28 points de l'écurie. Sincèrement, il n'y a pas photo une seconde, même si Logan Sargeant a beaucoup progressé cette saison, il faut le dire. Il se rapproche effectivement d'Albon, mais Albon est intrinsèquement plus rapide, plus fiable. D'ailleurs, il est sur les tablettes, hein, lui aussi. On parle de lui, éventuellement chez Mercedes ou ailleurs.
Et on parlait
donc,
de lui chez
y a
Ferrari
pas de secret.
Aussi,
hein. Ben voilà, quand il n'y a qu'une voiture, alors le scandale, vous me voyez venir, évidemment. Mmh. Moi, je trouve honteux qu'il n'y ait pas de mulet auparavant dans les équipes de Formule 1, il y avait toujours une troisième voiture, c'était extrêmement simple et on voyait les pilotes qui plantaient une bagnole pendant les essais, se rapatrier sur les stands le plus rapidement possible, sauter dans le mulet, poursuivre les essais. Mais pourquoi? Pour des raisons d'économie, ne me faites pas rigoler, c'est n'importe quoi. Voilà, le problème il est là, il devrait y avoir, je suis navré, une troisième voiture, on appelait ça le mulet, disponible pour les deux pilotes. Et d'ailleurs, pour être précis, parce que, et c'est normal, vous ne l'avez pas vécu, moi oui, et pendant très longtemps, ce mulet, il était affecté souvent à tour de rôle à un pilote ou à l'autre, un Grand Prix, etc. Me dites pas que c'est pour des questions d'économie. C'est économie en Formule 1, c'est ridicule.
Il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous, Jean-Luc. Mais on est sur la paille en F1, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais c'est clair que pour l'esprit d'équipe, en tout cas, ça va être compliqué, ce que tu disais, Alex, là, de remobiliser Sargeant. Et même le message que tu envoies, c'est vrai, à ton team, là, après seulement trois courses, c'est compliqué.
Et pour rajouter un point sur Williams, il y a aussi cette situation où Williams a reconnu qu'ils n'avaient pas pu apporter ce châssis du côté de l'Australie. Ils avaient reconnu pour des questions de moyens et ainsi de suite. Il y a aussi cette histoire aussi, comme quoi, du côté de chez Williams, on est toujours sur des fichiers Excel. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire qui est sortie.
Pour, oh bah non, faut que tu nous racontes.
Au niveau des référents, en fait, c'est James Valls qui a révélé ça aux médias The Race. Il expliquait que quand il est arrivé du côté de chez Williams, il a remarqué, il a constaté à son plus grand désarroi que le référencement des pièces du côté de chez Williams est toujours fait avec un vulgaire fichier Excel.
Ah ouais, et c'est pas la dernière version en plus.
Et c'est pas alors que du côté de chez Alpine par exemple, c'est un cloud qui est fait avec Microsoft et pour plein d'autres écuries, alors que du côté de chez Williams, c'est toujours un peu cet aspect-là. Donc et que s'il y a encore ce type de fichier d'Excel, c'est sur le référencement des pièces, c'est compliqué de référencer toutes les pièces, qu'ils ont dû faire une chasse au trésor du côté de Groove pour vérifier où étaient toutes les pièces, comment les pièces ont été créées, avec quels matériaux et ainsi de suite. Bref, c'était un bordel pas possible, si
non
je
mais
me
comment
permettre.
Dans un monde où tu as de la course automobile, où tu es à la pointe de la pointe technologique, tu peux encore faire ça, te tromper ou te gourer pour un mauvais fichier Excel?
Ouais, c'est déplorable. Et c'est pour ça que je suis peut-être un peu plus dur par rapport à Williams quand on apprend ce genre de choses et on comprend le désarroi de James Valls qui est en train de tout changer du côté de chez Williams drastiquement.
Très belle, très belle histoire. Ouais, très belle histoire. Nous aussi, on est sur Excel à RMC avec Jean-Luc. Hein. On a avec Paul, on a toujours ça. Ce brave logiciel. Paul, c'est l'heure du Punto Alpine.
Évidemment.
Est-ce que y a du mieux ce week-end? Attends, je vais retrouver les positions, mais je les ai plus trop en
13 et 16. 13 pour Pierre Gasly, 16 pour Ocon.
Avec un Esteban Ocon qui a eu un petit problème au stand et un Pierre Gasly qui a eu une petite pénalité. Esteban qui disait que il aurait peut-être pu espérer se battre pour la 10e place, aller grappiller des points. Donc on est optimiste.
Ouais, parce que. Ouais, alors on va rappeler que c'est un tear-off, hein, une protection de visière qui s'est coincée dans l'un des freins de l'Alpine et qui a donc commencé à prendre feu. Et c'est pour cette raison que Esteban Ocon s'est arrêté une fois de supplémentaire au stand pour régler ce problème-là. Et à ce moment-là, le pilote normand disait que ouais, il était en bagarre avec Hülkenberg et avec Albon aussi, et qu'il aurait peut-être pu s'accrocher pour les derniers points, pourquoi pas la dixième place. Il était vraiment déçu à l'arrivée. Pour Gasly, même si tu évoques une pénalité, ça n'aurait rien changé à son classement final 13e. Les deux pilotes ont dit qu'ils attendaient des améliorations pour Suzuka, mais force est de constater aujourd'hui qu'ils sont toujours eh bien, à la traîne, hein, 13e et 16e. Aucun point marqué, on le rappelle, depuis le début de la saison. C'est l'un des mauvais élèves de ce début de championnat. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que ça l'aille mieux pour Alpine, même si évidemment le discours des deux pilotes français eh bien, tend vers un petit peu d'optimisme. Enfin, mais ça, c'est à mon sens aujourd'hui toujours aussi compliqué, et pour Pierre Gasly et pour Esteban Ocon.
Ouais. Tu me permets un trait d'humour, Jean-Luc, comme tu les aimes. Oui. Bah, ils ont gagné deux places, hein, avec l'abandon de Verstappen et d'Hamilton. Bah oui. Et sinon, c'est clair, Gasly était 15e et Ocon était 18e.
C'est pas faux, mais au moins tu termines la course. Là, tu vois, le verre à moitié vide, là, mon Jean-Luc. Mais ça veut dire que tu termines la
écoute,
course.
Écoute, moi, je suis très inquiet aussi, voilà. Et j'aimerais qu'on redresse un tout petit peu la barre. Et sincèrement, ça n'est pas le cas. Alors, évidemment, Paul a raison de le souligner. Il était en bagarre. Mais tu sais, les temps autour en course, ça parle, hein, à chaque fois.
Oui,
hein.
Oui.
Pierre, 1,21 et 0,90. C'est pas mauvais. Les pilotes n'y sont pour rien. C'est pratiquement du niveau de Kevin Magnussen. 1,21, 0,82, tu vois. Et Esteban Ocon, 1,21, 354. Alors là, bah, c'est derrière Daniel Ricciardo aussi. C'est à peine devant Bottas. C'est moyenasse, dirait Vincent.
Exploit à noter d'Esteban Ocon en Q2. Hein. Il a réussi à qualifier l'immonde à 524 en Q2, quand même, Esteban Ocon.
T'as raison.
Mais il a porté à un moment, j'ai vu, hein, dans la ligne droite du fond, il avait sur les épaules.
Ouais, il était derrière. Ah,
c'est un gars solide, hein, c'est un Normand.
Voilà.
Alex, tu voulais aussi nous parler de Ricciardo, parce que c'était un grand prix en Australie. Tu me disais, là, en préparant l'émission, quand même, c'est dur, il n'y arrive pas. Tu m'as pas dit que c'était une pompe, mais tu le pensais très fort quand on a préparé l'émission.
Je force à penser que c'est pas Daniel qui pilote, c'est son frère Patrick, hein, parce que c'est quand même exceptionnel, enfin, malheureusement exceptionnel, ce qu'on est en train de voir derrière Ricciardo. On parle quand même d'un pilote qui veut retourner chez Red Bull à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Et le début de saison, bah, il se fait maîtriser par Yuki Tsunoda, et ça permet aussi de tirer un énorme coup de chapeau à Yuki Tsunoda, parce que cette Visa Cash App RB n'est pas une monoplace finalement qu'on attendait à ce niveau-là, ou du moins à un niveau aussi bas. On s'attendait, pour les espérances de l'écurie, c'était quand même un top 5 constructeur. Finalement, bah, c'est pas si bien que ça, mais il réussit, Yuki Tsunoda.
Premier point de la saison, hein, ce week-end. Hein,
exactement, à terminer à 7e, donc aller chercher ses premiers points. Quand Ricciardo, depuis le début de la saison, est en délicatesse, n'arrive pas à trouver de la performance, n'arrive pas à se mettre réellement dans les conditions. Il s'est fait taper sur les doigts par Helmut Marko juste avant le début de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je pense qu'il va encore bien se faire taper sur les doigts, parce que c'était le meilleur moment pour lancer sa saison. Là, encore une fois, là, la saison n'est pas lancée et ça commence à devenir compliqué. Et il faut trouver absolument vite des solutions pour Ricciardo, parce que même au-delà de vouloir retourner du côté de chez Red Bull, bah, il y a déjà un aspect de déjà conserver son poste du côté de chez Visa Cash App RB.
Ouais. Et un petit coup de cœur aussi, les gars, pour terminer ce paddock RMC, pour un Français qui s'est imposé en F2, Isaac Hadjar, Jean-Luc.
Ah bah c'est formidable. Écoute, alors on aimerait que ça puisse servir à quelque chose, tu me vois venir. Oui. Je pense à un certain Théo Pourchaire. On aimerait que ça puisse déboucher évidemment sur déjà une victoire au championnat et puis une place en Formule 1. Le seul problème, c'est que une nouvelle fois, c'est l'entonnoir. Et je le répète à l'envi, là où la Formule 1 a cadenassé les entrées, on l'a vu avec Andretti Cadillac, hein, et fait en sorte qu'il n'y ait que 20 pilotes sur la grille. Mais non, il en faut 26. Et comme ça, on aura de la place pour les jeunes pilotes et notamment pour Hadjar. Ce qui serait formidable.
Hadjar, Alex, membre du Red Bull Junior Team. Hein,
très, très protégé par Helmut Marko aussi. Il faut vraiment le notifier, ça, parce que Helmut Marko aime beaucoup le tempérament et le talent, bien évidemment, de Isaac Hadjar. J'ai tendance à dire qu'il était double vainqueur aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en course sprint, on lui a réellement volé cette victoire, parce que je ne comprends pas la pénalité qu'il a pu recevoir au départ de ce Grand Prix. Il a juste fait un départ et il est un peu tombé dans un auto noir aussi également. Mais c'est un week-end qui est extrêmement solide, et on attendait ça justement par rapport à Isaac Hadjar, dans le sens où l'année dernière il était du côté de chez Hightech Grand Prix. C'était pas la meilleure écurie pour justement avoir de la fiabilité, notamment au niveau des F2. Dans cette nouvelle génération de F2, le début de saison était aussi compliqué, non pas par sa faute mais par la fiabilité aussi également. Là, c'était un coup de grâce réellement qu'a sorti Isaac Hadjar, et c'est extrêmement fort, surtout dans l'optique, en pas de Ricciardo juste avant, Là, pour Isaac Hadjar, s'il fait une excellente saison cette année, il y a l'opportunité Formule 1 réellement l'année prochaine.
Merci les gars. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant d'Isaac Hadjar, ça me fait penser qu'on est en pleine réflexion là avec toute l'équipe du paddock RMC pour vous préparer des petits podcasts un peu magazine, voilà, qu'on pourrait vous proposer en dehors des week-ends de course. C'est vrai que l'histoire d'Oliberman aussi en Arabie Saoudite, ça nous a fait penser à un petit podcast sur tous les jeunes pilotes, les jeunes cracks qu'il y a dans les catégories inférieures qui pourraient débarquer en F1. Donc on va essayer de vous préparer plein de petits podcasts un peu sympas qui sortent du cadre vraiment débrief week-end de course. N'hésitez pas à nous noter quand même hein, pour ce nouvel épisode du paddock RMC. Prochain Grand Prix les gars, le 7 avril, week-end du 7 avril au Japon, à Suzuka, là aussi un tracé mythique. Bye bye.
Le paddock RMC.